Damien est très drôle. En tout cas, moi, il me fait beaucoup rire et je ne suis pas la seule. Damien est aussi un chercheur de vérité. Sa vérité. En fait, Damien est un aventurier des temps modernes, sans cesse à la recherche de qui il est et de la façon la plus juste de l'exprimer. Mais Damien, il n'est pas si différent de toi et moi. Dans la vie, comme on dit, il est facteur. Un facteur pas comme les autres. Vous comprendrez pourquoi en écoutant ce tout premier épisode de Créez-moi sur parole. Le podcast qui dépoussière, démystifie et articule spiritualité et créativité. Deux sujets qui me sont chers. Il faut bien le dire, ils sont parfois tabous, ou c'est du bout de la langue qu'on ose les prononcer. Par peur de l'amalgame religieux pour l'un, par crainte de crâner pour l'autre. Et oui, j'ai envie de remettre crâner, ce terme de collégienne des années 80, au goût du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de pleinement les nommer, de les faire sortir de leur cachette, de leur donner de la vie, de les explorer sous toutes leurs coutures. Parce que je crois que c'est quand nous les humains, on connecte les deux, spiritualité et créativité, que la magie se produit. Que c'est ça qui rend heureux. Et que c'est peut-être même ça qui va changer le monde. Alors prends-moi pour une utopiste si tu veux, ne sois pas d'accord avec moi tant que tu veux, ce qui compte finalement, c'est que tu te fasses ton idée. Moi, c'est Nathalie, je suis coach et co-créatrice de Club Culotté. Une communauté où justement, on t'accompagne à retrouver du sens, en t'apprenant à réveiller ce qui te fait profondément vibrer, et à créer une vie où tu te sens alignée. Avec Créez-moi sur parole, j'ai eu envie d'exprimer la mienne de créativité. En explorant comment concrètement d'autres êtres humains, comme vous et moi, ont cherché à allier ces deux gros mots. Pourquoi ? Et au service de quoi ? J'ai eu envie d'écouter leurs histoires, de comprendre comment ils ont fait le lien entre ciel et terre pour exprimer ce qu'ils sont, ce qui les fait vraiment vibrer, ce qui fait qu'in fine, ils s'en iront sans regret. Je sais, très égoïstement, ma plus grande qualité, que je vais prendre un immense plaisir à faire ces rencontres. Mais mon secret espoir, c'est que ça te donne toi aussi envie d'oser exprimer ton grain de folie le plus inavoué. Attention, âme, pantoufle, s'abstenir. C'est parti, décrochez vos ceintures, ouvrez votre cœur et vos écoutilles, on vous souhaite une bonne écoute. Salut Damien, comment vas-tu ?
Ça va. Honnêtement, je suis un peu ému d'être là, de partager ce premier podcast avec toi. Et c'était une idée qu'on avait lancée il y a quelques temps et qui est en train de prendre forme. Et je trouve ça très très cool.
Alors, Damien, j'ai une première question pour toi.
J'écoute.
T'écoutes. Qui es-tu ? Elle n'est pas simple. Qui es-tu ? Que crées-tu ? Et quel est le lien entre ce que tu crées et ce que tu es ?
Qui es-tu ? C'est une question hyper large et en même temps, c'est une question... à laquelle j'essaye de répondre tous les jours, c'est-à-dire d'essayer de me connaître de plus en plus. Et en même temps, il faut bien une réponse pour l'interview, là. Donc, je dirais que je suis une personne qui tend vers l'authenticité en étant comédien. C'est la forme que j'ai trouvée pour pouvoir m'exprimer le mieux possible, d'être à la fois auteur de mon propre seul en scène. C'est la forme qui a réussi à naître de ce que j'avais envie de sortir de moi. Et c'est ce qui me permet de me sentir dans ces moments-là complet, et ça me permet enfin de m'exprimer, d'exprimer quelque chose que je ne suis pas en mesure d'exprimer dans la vie de tous les jours.
Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu fais justement dans la vie de tous les jours ?
Alors dans la vie de tous les jours, je suis ce qu'on peut dire une personne lambda, c'est-à-dire je suis la personne qui passe un peu tous les jours chez vous. Je suis un facteur et dans cette vie-là, une vie qui me permet de payer mes factures et qui me convient, voilà, dans une vie somme toute ordinaire. Sauf que, au fond de moi, j'ai quand même une appétence pour la pour l'expression, et une expression qui, dans le monde qu'on vit au jour le jour, paraîtrait trop originale, trop... sorti du contexte, on comprendrait pas mes réactions qui sont peut-être un peu surjouées ou surémotives des fois sur scène. Ça me permet d'avoir cette espèce de liberté que la vie, quelque part, par tout ce qu'on nous a inculqué, nous empêche quelque part de réellement vivre pleinement.
Super intéressant. Est-ce que c'est finalement ce trop dont tu parlais, trop émotif, trop original, c'est ce lien que tu fais entre qui tu es et ce que tu crées ? Est-ce que c'est là que tu fais le lien ? Ou est-ce qu'il y en a un autre ?
En fait, je pense que j'ai depuis toujours été un peu... surémotif, et en fait je savais même pas, et il a fallu que je découvre avec le temps mes émotions, mais parce que ça ne m'avait jamais été inculqué. J'ai une éducation où mes parents sont ouvriers, et on quelque part parlait des émotions, c'était un peu impudique, chacun a son jardin secret et on le garde bien secret, et ce qui se passe dans notre vie intérieure reste à l'intérieur. Et en découvrant le monde du spectacle, en allant vers ça, j'enlève un voile et je me rends compte qu'il y a tout un monde intérieur d'émotions auxquelles je n'ai jamais eu pour le moment accès. Et là, ce voile se lève et je découvre ça. Et c'est vraiment un nouveau monde. J'ai eu l'impression de partir en exploration vers quelque chose, un monde inconnu. Et ça m'a passionné. Alors ça m'a transformé aussi. Et donc du coup, on a une approche un peu différente après avec les personnes qui nous connaissent bien. Mais justement, on découvre et on croque cette découverte parce que voilà, c'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, quoi. C'est un truc de dingue.
Génial. Alors, en fait, une question que j'ai envie de te poser, peut-être qu'elle est pas simple non plus, et que peut-être les auditrices et les auditeurs se posent, c'est comment elle est née. Tu en as parlé un petit peu là en évoquant ce sujet des émotions, de l'émotivité, du trop. Mais comment elle est née, ton envie de créer finalement ?
Alors, il y a un côté un peu mystique que je vais peut-être pas évoquer ici parce que ça pourrait être un peu long. Mais en gros, j'ai eu une phase, même un événement un peu mystique où j'ai eu vraiment un sentiment très très fort, un pressentiment, ou je sais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait, qu'il allait se passer quelque chose de grave dans les heures qui venaient, en gros que j'allais avoir un accident de scooter, et que si je n'écoutais pas ce sentiment, il allait se passer quelque chose. Et pressentiment qui était, c'était la première fois que j'avais eu ça de ma vie, et je décide de ne pas l'écouter pendant longtemps, et puis je suis sur ce scooter, c'est en Malaisie, on était pendant un voyage, et je suis sur le scooter, et là je sens vraiment qu'il faut que je décélère, et le virage d'après je tombe en scooter. Parce que j'avais écouté ce sentiment, ce pressentiment. Du coup, j'ai décéléré et il ne s'est rien passé dans ma chute derrière.
C'était il y a combien de temps, ça ?
Et ça, c'était il y a maintenant 13 ans. Et de cet événement-là, de ce pressentiment, première fois de ma vie que je ressentais ça, et une fois que j'étais tombé, il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui partait, et je me sentais de nouveau comme avant ce pressentiment. Sauf que je venais de vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. Et donc, vivant cette chose-là, moi qui suis, qui était jusque-là hyper cartésien, qui ne croyait que ce qu'il voyait, et là je ressentais quelque chose d'un monde intérieur, et là je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je comprenne ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'était que ça. Et donc, je vais chercher des explications, et dans ces explications je vais à la rencontre de sentiments, de pressentiments, et d'une intériorité à laquelle je n'avais même pas imaginé que je pouvais avoir accès. Et de ces pressentiments, m'amènent à m'exprimer et à devenir, d'aller vers le chemin d'être comédien.
Tout ça en fait c'est un long chemin. Tu dis que c'est arrivé il y a 13 ans. Et c'est un cheminement, tous ces questionnements, c'est pas arrivé en une heure ou en deux jours, c'est ça? C'est quelque chose que tu as cultivé depuis, plusieurs années, du coup.
Oui, il a fallu que je comprenne ce qui m'était arrivé, parce que moi j'ai besoin de comprendre pourquoi, avant d'avancer. Et ça a été long, et c'est toujours long, puisque ça reste un chemin où moi j'avance pas après pas. Il y en a qui foncent, tête baissée. Moi, je suis quelqu'un d'assez craintif et j'ai besoin de sécuriser un maximum, puisqu'en fait, je me suis pris quelques portes en allant, dans mon parcours, je suis en revenant de ce voyage en Malaisie et en voulant essayer de vivre, puisqu'en fait, j'avais compris que la vie, quand même, ça pouvait s'arrêter à tout moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a un moment, je vais pas m'arrêter là, sachant que la vie peut s'arrêter maintenant. Donc j'avais compris que j'étais arrivé à la fin de la croyance que la vie était éternelle et qu'elle pouvait s'arrêter. Et donc, en sachant qu'elle pouvait s'arrêter, je me dis, mais il vaut mieux que je la vive, cette vie, plutôt que de passer à côté, parce que justement, j'aurais eu trop peur de la vivre. Et donc j'avance. Et je croque la vie à pleines dents en voulant faire plein de choses, et je fais plein d'erreurs. Et de ces erreurs-là, j'apprends plein de choses, bien sûr, mais aussi je ne me protège pas. Et en ne me protégeant pas, je me suis fait mal à mon petit cœur, à mon ego, à tout ça. Et de ces blessures, ça m'a freiné et ça m'a paralysé aussi. Et donc ça peut faire peur aussi dans la créativité, c'est que comme on rentre dans un nouveau monde et quand on va chercher des nouvelles choses, on se confronte à l'inconnu. Se confronter à l'inconnu, c'est aussi découvrir des facettes de soi pas forcément toujours très agréables. C'est aussi se dire qu'on n'est pas tout le temps courageux, c'est aussi se dire qu'en fait on est fragile des fois. Et à un moment, on fatigue d'être fragile et on préfère se mettre dans sa zone de confort à un temps parce que justement, on a trop voulu découvrir et on s'est fait mal. Et il y a eu un moment où j'ai fatigué, on va dire, de découvrir ce monde-là. Et il m'est arrivé aussi à un moment d'abandonner les projets, d'abandonner. Et je pensais que j'allais abandonner. En fait, je pensais que je n'abandonnais pas réellement. Je pensais, ouais, je mets ça de côté. Mais en fait, tu ne refais plus rien parce que tu as trop peur d'avancer, parce que tu as trop peur d'avoir mal.
C'était effectivement l'une de mes questions. C'est passionnant. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, c'est entre guillemets rassurant de savoir que tu n'es pas infaillible et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être infaillible justement pour créer, peut-être au contraire. Alors, je trouve ça intéressant de creuser sur le sujet des peurs. C'était pas forcément ma prochaine question, mais on reviendra sur la suivante après. J'allais te demander, as-tu déjà connu la peur de manière un petit peu provocante? Tu viens d'y répondre en disant que oui. La question, c'est t'en fais quoi? Parce qu'on connaît tous la peur, toutes et tous la peur. Et comment est-ce que tu la gères, même si j'aime pas ce terme gérer? T'en fais quoi de la peur alors?
Pendant longtemps, la peur, je l'ai prise en pleine face et elle m'a tétanisé. Parce que, je croyais qu'il fallait que je sois parfait pour continuer à avancer. Et le fait que je ne sois pas parfait, jamais, j'étais en train de me préparer dans mon petit coin en me disant « Non mais le jour où je vais faire mon seul en scène, ça sera quand je serai fort. »
Excuse-moi, je te coupe, peut-être préciser pour les gens qui écoutent, un seul en scène, tout le monde ne connaît pas, c'est quoi ?
C'est raconter en fait une pièce de théâtre, mais en étant seul sur scène, qui fait rire, qui est sensible. Voilà, c'est comme, si on veut, c'est un one-man show avec un petit peu, c'est pas forcément axé que sur la comédie. Que sur le comique, c'est aussi en racontant une histoire, en racontant moi c'est comme ça que je l'ai raconté mon histoire avec des passages plus ou moins émouvants.
Ok, merci pour cette précision.
Et donc cette peur qui m'a paralysé pendant longtemps parce que j'avais vraiment voulu être parfait avant de commencer à faire quelque chose m'a vraiment bloqué. Et il y a un moment où il a fallu qu'en fait je pouvais plus vivre avec cette peur. En fait, cette peur a commencé à me tétaniser tellement que le fait de savoir que je n'avançais plus dans ma vie commençait à me ronger de l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on a commencé à découvrir, à mettre un pas dans son authenticité, dans sa créativité, une fois qu'on a commencé à découvrir qui on est vraiment, mais ça, et je voudrais vraiment être démystifier le côté créativité. La créativité, ce n'est pas tout de suite faire une statue, tout de suite faire un tableau, tout de suite. La créativité, ça peut être coudre un pantalon ou refaire un ourlet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut la créativité, ça peut faire être son potager. Ça peut être tout. Et la petite, entre guillemets, les petites formes de créativité qu'on met, toutes ces petites formes, entre guillemets, d'amour qu'on met dans chacun de nos gestes de tous les jours, c'est de la créativité. Après, la créativité au sens large de, créer une pièce de théâtre ou créer un film, c'est plus de temps, plus d'énergie et entre guillemets plus d'amour sur le long terme qu'on met dans un projet. Mais ça reste la créativité de qu'est-ce que tu crées dans ta vie au jour le jour, et en fait on est tous créatifs.
Ce que tu veux dire, c'est que ça commence par des petits pas en fait, et c'est presque comme un entraînement. Au fur et à mesure qu'on fait ces petits pas, ça devient peut-être un quotidien et ça peut devenir quelque chose de plus grand. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ?
Oui, et puis enfin, il y a tellement de formes de créativité quand tu vois qu'il y a des gens qui, j'en sais rien moi, avec des capsules de bière, ils te font des statues. Tu te dis mais par quoi ils ont commencé ? Ils ont commencé en s'amusant. En fait, ils se sont amusés dès le départ. Et qu'est-ce qui les amuse ? Revenir à soi, revenir à tiens, ça m'amuse. Ça m'amuse, ça me fait rire. Et là, on revient à la base de la créativité, c'est faut que ça nous amuse.
Ouais, j'adore, c'était l'une de mes questions. C'était un peu ta définition de la créativité. J'adore que tu dises qu'il faille démystifier le sujet, parce qu'on a toujours l'impression que c'est peut-être réservé aux artistes, à quelques personnes hyper talentueuses sur qui une espèce de vocation de créativité ou de créateur ou de créatrice est tombée. Mais pas du tout, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'à partir du moment où on suit son cœur, où on suit ce qui nous donne de la joie, moi j'aime bien dire « follow the joy », eh bien, voilà, ce qu'on fait est nourri par cet amour, et du coup, ça donne quelque chose de créatif, quoi, et de créateur.
Oui, le seul truc qu'il faut réussir à se dire, c'est qu'en fait, on est tous créatifs. Le problème, c'est que notre société, notre éducation, nous fait dire, c'est pas parce que je vais je vais prendre des canettes de coca et que j'en fais des piles et que j'en fais finalement que vu du ciel, ça fait un truc. Ouais, mais c'est pas de l'art. C'est juste, est-ce que ça t'a fait plaisir ? Est-ce que t'as pris plaisir à faire ça ? Est-ce que t'as découvert quelque chose qui t'animait ? Et de ça, en fait, c'est juste qu'on casse des barrières en se disant « mais ça, c'est pas de l'art ». Mais en fait, on s'en fiche de savoir si c'est de l'art ou pas. Est-ce que ça t'amuse ? Revenons juste à nous. C'est, est-ce que ça t'amuse? Alors l'art, ça peut être des choses, des fois des choses hyper surprenantes. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'ai mis du temps à comprendre que parce que avant moi j'ai fait du one man show justement. Et je me suis cassé les dents à vouloir faire quelque chose qui ne me ressemblait pas. C'est-à-dire que je voulais à tout prix devenir comédien, être même comique, parce que je pensais que c'était ça que je devais être, parce que je voyais pas d'autre moyen de faire du seul en scène. Et il y a un moment où j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je suis vraiment à l'aise sur scène à ne vouloir faire que rire? Et là, il y a eu des déclics qui se sont faits en disant, mais en fait, ce n'est pas moi. Mais en même temps, il y avait une côté de mon ego qui fait, ouais, mais il y a que ça qui marche. Il y a que ça qui se vend au théâtre. Et à un moment, j'ai fait, ouais, mais en même temps, c'est pas ça que j'ai envie de dire.
Ouais, super intéressant. Il y a cette histoire d'injonction extérieure et de ce qu'on croit qu'il faut faire. Puis à un moment, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une bascule en te posant vraiment la question, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment dire, qu'est-ce que je veux vraiment faire, c'est ça?
Ouais, et puis beaucoup de portes avant de comprendre ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé revenir un peu plus rapidement sur moi, plutôt que de rester dans le mental. En fait, j'étais beaucoup dans la tête en me disant, rationnellement, concrètement, comment on fait pour faire marcher un spectacle. Il faut qu'il soit de 55 minutes, il faut qu'il soit drôle et il faut qu'il aille plaire dans des concours et donc il faut qu'il y ait des formats de sketch. Mmh. Ok, ça c'était le format rationnel. Sauf que j'ai essayé ça, je ne prenais pas de plaisir à le faire, j'étais tout en force et ça prenait pas, ça ne prenait pas, je mettais pas du cœur à l'ouvrage. Et à partir du moment où je suis revenu à « Attends, ça me fait plaisir ?»« Ouais, mais c'est hyper original, on s'en fiche. »« Ça te fait plaisir ? Tu vas le faire, tu vas pas compter tes heures et tu vas vraiment le faire. » Et là, j'ai pas compté mes heures. Pour ce spectacle, c'est une libération de me dire « Les gens sont venus le voir, les gens ont aimé. » Et c'était original. Et oui, c'était pas ce que j'avais imaginé en allant faire du théâtre au tout départ à Paris. Et finalement, ben derrière, j'en sors un spectacle qui est vraiment moi, où j'en suis fier et sur lequel ben, je peux pas me cacher derrière. Oui, mais en fait, c'est pour correspondre à Dreykod. Non, c'est un spectacle qui est complètement moi et ça fait du bien.
J'adore. Bah, c'est génial. Peut-être que tu peux revenir parce qu'on a à un moment donné, on a pris une bifurcation et qui était passionnante, mais revenir sur le sujet de la peur, parce que je pense que, enfin, toi comme moi, voilà, on l'a ressenti. Et c'est un sujet central et je pense que quand on se met à créer, bah, fatalement, elle arrive. Surtout quand on se met à créer avec des trucs qui nous plaisent vraiment. Du coup, toi, quand la peur est arrivée, tu disais tout à l'heure. Je crois que tu disais, désolé si je me trompe dans tes mots, que ok, la peur était là, mais c'était devenu trop insupportable, finalement, de ne pas créer à ton image, de ne pas libérer cette authenticité. Est-ce que tu sais ce qui a permis de faire un déclic? C'est pas une question facile non plus, mais c'est intéressant.
Je me suis fixé un objectif, déjà, et je me suis projeté en me disant, mais qu'est-ce qui se passerait si je ne le fais pas? Surtout, je me suis vu en me disant, mais dans quelques années, je dirais encore, oui, le jour où je ferai mon seul en scène, et je crois qu'en fait, cette image-là, elle me faisait encore plus peur que l'image de monter sur scène. C'était l'image de la personne frustrée de ne pas avoir fait les choses, elle me faisait encore plus peur. Et maintenant, une fois que je l'ai fait, et surtout celle-là, c'est un petit truc maintenant que j'ai réussi à comprendre, mais c'est facile de le dire une fois que tu l'as fait, c'est que en fait, la peur est une émotion. La peur, elle passe. Et la peur, c'est une émotion créée par le mental. La peur n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un concept que nous-mêmes, on s'est créé. C'est vraiment notre mental qui nous fait dire « alerte rouge ». Si tu fais ça, il va se passer quelque chose. Mais ça, c'est une supposition. C'est-à-dire que on peut faire des projections sur le fait que si je fais quelque chose et que les gens et que j'en ai honte ou que les gens le critiquent, on va me rejeter, on ne va pas m'aimer. Si je suis en dehors du groupe, il y a les côtés un peu préhistoriques, si je suis en dehors du groupe, je vais fatalement mourir. Et si, et par la peur de la mort, je ne peux pas ne pas plaire au groupe, donc je préfère ne rien faire pour être sûr d'être complètement conforme et de ne pas agir, mais en même temps, je ne vais pas mourir.
Oui, c'est le fameux sujet de l'appartenance, en fait, de l'être humain. Il faut savoir effectivement que dans son cerveau reptilien, si je comprends bien, il y a une vraie peur de ne pas appartenir à un groupe. Donc, c'est bien d'être au courant de ça, justement, pour dire « Ok, je t'entends, mais ce n'est pas toi qui vas prendre le volant quoi, de la vie. »
Très important de dissocier ça, de l'entendre, la peur, mais en plus, comme toutes les émotions, elles viennent, elles passent. La joie, elle vient, elle part. Le malheur, il vient, il part. Savoir que c'est temporaire, savoir que c'est une émotion, savoir que cette émotion n'est pas toi. Cette émotion, c'est quelque chose qui arrive parce que c'est dans ton mental, dans ton schéma de pensée, c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là par rapport à tous tes concepts qui ont été inculqués par tes parents, par la société. Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Sauf que maintenant, il faut s'en dissocier pour réussir à la prendre telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est un concept qui est créé par le mental.
Et alors, moi, je trouve ça fascinant comme sujet. Là, t'en parles, les gens peuvent se dire « Ouais, bah super, je comprends bien, mais j'y arrive pas. » Comment on fait, du coup, pour arriver à, entre guillemets, ton niveau?
Honnêtement, je suis un novice en termes de peur. Quand je vois comment je suis encore bloqué par plein de peurs, je suis pas du tout un maître en la matière. Au contraire, sauf que maintenant, j'arrive à juste le premier truc, c'est de l'observer. Il y a des peurs qui arriveront dans différentes situations pour chaque personne. Sauf que il faut être à l'écoute et vraiment se regarder soi. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est vraiment d'avoir accès à son intériorité. Mais comment on fait pour avoir accès à son intériorité? Et en fait, il y a rien de plus simple et en même temps, il y a rien de plus compliqué dans notre monde. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être vraiment calé sur du moment présent. C'est ici et maintenant, vous ressentez quelque chose. Ici et maintenant, vous êtes pleinement présent. Et ici et maintenant, vous avez une émotion. Ici et maintenant, vous sentez, vous voyez, vous êtes. Et une fois qu'on se dit ici et maintenant, on n'est plus dans l'avant, on n'est plus dans l'après. C'est là, ok, qu'est-ce que je ressens? Et peu importe après ce que vous en faites, juste de l'observer ça. C'est déjà le premier pas vers une ouverture vers un monde qui va vous donner beaucoup de courage, puisque justement, on va comprendre qui on est.
Justement, ça fait une excellente transition. On l'a dit au début, hein, ce podcast, il vise à explorer, puisque c'était nos premières conversations, spiritualité et créativité. J'ai l'impression que tu l'abordes un petit peu là, en parlant de la présence et du moment présent. Quel lien, justement? Déjà, c'est quoi pour toi la spiritualité? Roulement de tambour. Et quel lien ensuite fais-tu entre spiritualité et créativité?
La spiritualité, en fait, quand je n'en ai absolument aucune certitude, c'est moi et mon ressenti et mon vécu, et de par ce que j'ai lu, de par ce que j'ai vu, tout ce que je vais dire derrière, c'est moi, Damien Jaouen, qui voit la spiritualité comme ça. En fait, je pense qu'il y a pour moi quelque chose d'innommable, quelque chose de, on est dans un univers qui est fait d'une intelligence absolument extraordinaire, d'une justesse qu'on n'arrive pas à encore apercevoir. Et de ce tout, on va l'appeler la vie, on ne peut l'apercevoir que par notre filtre. Et le but de la spiritualité, pour moi, c'est de réussir à essuyer un petit peu ses lunettes de filtres qu'on a devant les yeux pour réussir à... Tout dépend comment on a envie de voir sa spiritualité, mais moi, j'ai envie de voir le beau. Et plus on essuie ses lunettes, plus on est en contact avec la vie, avec l'univers, avec ce tout, et plus on arrive à en extraire la beauté. Je dis la beauté, mais ou l'intelligence, enfin voilà, chaque chose a. Mais on arrive à en extraire, et donc on arrive derrière à avoir toutes ces petits morceaux de moments qu'on peut appeler sacrés, et de ces moments sacrés nous procurent de la joie. Et je crois que la spiritualité, c'est essayer de vivre un maximum de moments présents dans la joie.
Merci, super beau, franchement j'en ai des émotions. Et alors, quel lien, pour aller dans le concret justement, fais-tu entre la façon dont toi tu vis ta spiritualité, parce que merci de le préciser, c'est super important de dire que chacun a sa définition et c'est bien ça qui rend la chose intéressante, et qu'on parle absolument pas au passage d'ailleurs de religion, hein. Malheureusement les deux ont été assimilés. Donc ma question, c'est quel lien fais-tu avec ta propre créativité ?
De cette vie, de cette intelligence extraordinaire, de ce tout, des informations sont émises. Moi, j'aurais tellement envie de faire plus, mais je suis limité par mon corps, par mon physique, par mon intelligence, enfin par mon cerveau et par mon mental. Je suis limité. Et par ma limitation matérielle, je tente de reproduire, de m'approcher le plus possible de cet univers, de ce tout, et de le retranscrire dans la matière. C'est d'apporter au monde ce que moi je ressens de cet univers, de ce tout. Et je crois que c'est ça la créativité. Et ça vient par la joie, et la joie de faire les choses. Et que c'est pour ça que si tout le monde avait la joie de faire les choses, je pense que le monde, si on s'autorisait tous à avoir la joie de créer, la joie, le monde serait. C'est pour ça que ce podcast aussi existe. C'est donnons la joie aux gens de créer pour que le monde change. Le monde soit plus coloré, que le monde qu'au lieu de faire des bâtiments un petit peu on va dire immondes, qu'on ait un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beau. C'est complètement utopique, je sais.
Mais moi j'adore franchement.
Je me dis, dans la gratitude, merci, cool, je viens de vivre ce moment-là, c'est de la balle. c'est trop cool de vivre certains moments, mais sauf qu'il faut les extraire, ces moments-là, sinon on passe à côté, et on peut passer à côté pendant longtemps. Pendant longtemps, moi j'ai cru que je serais vraiment très très heureux lorsque j'aurais mon one-man show qui sera en tête d'affiche à l'Olympia. Et puis j'ai compris qu'en fait, ben non, c'est ce moment-là que je vis qui est extraordinaire, et il y a des gens qui seront qui auront des succès dingues et qui peut-être ne seront jamais seront passés peut-être à côté de leur vie parce que ils n'auront pas su extraire tous ces moments de bonheur au jour le jour, et on peut passer sa vie à passer à côté.
Ok, alors justement, Damien, tout à l'heure, tu parlais du fait que quelque chose du genre, si tout le monde suivait le fil de sa joie, la joie, bah, le monde il serait peut-être différent. Donc ma question, c'est quelle est selon toi la place de la créativité dans le dit monde d'après ?
Si la créativité au sens... comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle est un peu suivie. J'ai surtout l'impression que les gens s'écoutent un peu moins qu'avant, que le fait de passer un peu de temps sur les portables, le fait de regarder un peu la télé, le fait de regarder tout ça, c'est des moments auxquels on passe à côté de sa vie et de ses émotions, de son intériorité. Moi, je suis pas hyper confiant, c'est-à-dire qu'il y aura les irréductibles qui vont sûrement s'intéresser à la créativité et vouloir créer. Après, bien sûr, il y a tout la créativité dans l'univers digital, mais la créativité, elle naît aussi un peu de la recherche de ce qui nous fait plaisir et d'avoir du temps pour ça, de s'ennuyer un peu. Et en fait, on passe beaucoup de temps à s'occuper l'esprit. Et en fait, on s'occupe le mental et on s'occupe l'esprit, mais on laisse pas du tout de temps de repos. C'est pour ça que la méditation, on va dire que les applications de méditation et tout ça sont en plein boom, parce que justement, il y a quand même une recherche de vrai qu'on perd avec le monde digitalisé. Et donc, dans ce monde d'après, j'ai l'impression qu'il y aura quand même une scission entre ceux qui seront dans le monde industriel et on y va à fond dans la tech. Et d'ailleurs, on le voit aussi, un monde écologique où on va retour vers soi et retour vers la Terre. J'espère que ces deux mondes-là vont pas se diviser pour mieux se mettre sur la gueule, mais ça m'inquiète un peu, parce que justement il y aura sûrement certaines personnes qui seront en quête d'une certaine spiritualité, quand d'autres seront dans l'apologie du mental. Et là, ces deux confrontations peuvent être vraiment... En fait, c'est ces deux mondes qui ne pourront jamais se comprendre. Puisqu'en fait, c'est deux mondes qui sont à la fois... qui sont complètement complémentaires et en même temps complètement dissociables. Ça me fait réfléchir.
C'est un peu ça me fait penser au sujet de la dualité, en fait. Comme s'il y avait deux choses, une blanche, une noire, et qu'aujourd'hui, qu'on oppose. Et peut-être qu'un des enjeux, c'est de réussir à les combiner. Moi non plus, je ne sais pas comment, mais toi, tu as envie d'œuvrer vers quoi, et en quoi est-ce que tu crois, justement, par rapport à ce constat-là que tu fais ?
Moi, je crois dans les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas... On n'empêchera pas les humains d'aller vers le progrès. On est très heureux d'avoir des nouvelles technologies. Le problème de la nouvelle technologie, c'est science sans conscience et la ruine de l'âme. Et c'est un peu ce qu'on voit, c'est quand on voit tous ces chercheurs qui se prennent, entre guillemets, plus pour des dieux en ayant créé, et sauf qu'ils ont aucune conscience de ce qui se passe derrière, et dans cette inconscience ça peut créer des dégénérations derrière, qui fait que c'est là où ça peut inquiéter.
Ouais, donc c'est là où tu fais le lien, en fait, finalement, pour reprendre ce sujet d'unité plutôt que de dualité et d'opposer, c'est la science, oui, mais avec la conscience, quoi. Peut-être ça changerait tout,
et de comprendre qu'est-ce que l'inconscience. En fait, on se rend même pas compte que on est globalement tous très inconscients. Qu'en fait, il faut qu'on aille chercher cette conscience.
Mais
que
ça. C'est quoi pour toi l'inconscience ?
L'inconscience, c'est de ne pas comprendre qu'en fait l'ici et maintenant, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce qui peut t'amener le plus de bonheur. Et que quand tu vas chercher ton bonheur dans le futur ou dans le passé, ça peut te bloquer de ton vers ta conscience, puisqu'en fait tu t'as pas conscience de qui tu es, mais tu fais des projections de qui tu es. T'as pas conscience de ce que t'as vraiment, de ce dont t'as vraiment envie. T'as pas conscience de tout ça, et donc tu es inconscient. Et donc, en étant inconscient, tu feras des projections, tu feras des envies, et tu ne t'écouteras pas. Et forcément, quand on s'écoute, on écoute son cœur, ses tripes. Quand on s'écoute réellement, on n'écoute pas son mental, on écoute vraiment, on s'écoute tout son corps. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de conscient, et en étant conscient, c'est là où on peut faire de véritables choix.
T'as un petit conseil justement pour dernièrement j'ai eu une discussion sur le sujet entre comment savoir si on écoute son mental comme tu dis ou si on écoute son cœur. Peut paraître étrange comme question, mais je pense que c'est pas si évident pour tout le monde.
Bah, c'est une très bonne question. On est tellement persuadé des fois de se dire ah ben non mais là c'est mon cœur que j'écoute, et en fin de compte non c'était complètement l'ego derrière qui nous poussait à faire les choses. J'aurais qu'une seule question que je me poserais, c'est est-ce que ce que je vais faire j'aurais envie qu'on me le fasse? Si je devais agir, par exemple, est-ce que l'action que je vais qui va générer, j'aurais envie qu'on me la fasse. C'est-à-dire, est-ce que je fais du mal à autrui. Après, pour tout ce qui est dans la réflexion pure et dure et dans l'action. C'est une bonne question. J'ai pas trop cherché ça. Comment est-ce qu'on fait pour dissocier ça? Là, comme ça, j'ai pas la réponse.
Moi, en t'écoutant, même si c'est pas normalement moi l'interview, mais en t'écoutant, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que le mot de la joie revenait très souvent. Et je me suis justement dit que l'un des critères très simples, hein, c'est de voir si ça nous procure de la joie.
Ouais, c'est
peut-être un peu différent du plaisir d'ailleurs, plus profond, plus nourrissant, quoi. Voilà, et ça c'est une émotion de base de l'être humain, donc ça peut être une piste, hein, je sais pas ce que t'en penses. Bon,
complètement. Ouais, si, bah après c'est ce qui est marrant, c'est que j'avais lu un livre qui montrait qu'il y avait 22 émotions après chacun tendait vers des émotions, donc il y en a 11 qui sont des émotions qui nous tirent vers le haut et 11 qui nous tirent vers le bas. Et on se rend compte que la joie est une des émotions premières, et qu'en fait, quand on tend vers la joie, quand c'est vraiment notre objectif, du coup, on se transforme quelque part, parce que c'est ça notre objectif. Et on se rend compte que la joie n'est pas du tout l'objectif de l'humanité. La joie n'est pas l'objectif globalement des gens. Et quand on regarde dans les 22, on se rend compte que des fois, je trouve qu'on s'arrête à quelque chose d'un peu moyen, alors qu'on pourrait tendre vers la joie. Oui, ça demande de passer par certaines étapes pour tendre vers la joie. Je dis pas que la joie c'est 24 heures sur 24. C'est illusoire. On passe par plein d'étapes. Mais c'est une direction, c'est un cap vers lequel on doit. J'ai envie, moi, parce que ça me procure tellement plus de joie, tellement plus de bonheur d'aller vers ça, que d'aller vers des émotions qui nous tirent vers le bas, qui sont forcément quelque chose de plus conflictuel à la.
Super intéressant. Franchement, c'est une vision ambitieuse, exigeante et presque politique que tu nous proposes pour le monde d'après. Non, sérieusement, moi je trouve ça passionnant. Alors j'ai une série pour conclure de questions un peu plus rafales, en mode réponse courte. Quel est le conseil que toi, Damien, de 2020, tu donnerais au Damien de ses débuts?
Arrête de croire qu'il faut être parfait pour pouvoir avancer. Et et dissocie-toi de ta peur. Des émotions, tu vas en avoir sur le trajet, sur le parcours. Tu vas avoir des émotions. Regarde-les. Dis-toi que ce n'est que des émotions et avance. J'étais paralysé de ne pas avancer. Donc maintenant, avance. Il y aura des échecs. Des échecs qui sont considérés par le mental comme des échecs. Ça dépend comment toi tu les vois. Et si tu les vois comme quelque chose de dire, bah tiens, c'est marrant, j'ai ressenti ces émotions-là, donc j'ai appris. Donc j'ai vu comment je réagissais dans telle situation. J'ai vu qu'il fallait que je fasse comme ça pour réussir, entre guillemets, si on comprend la réussite. Voilà, tant que tu donnes le meilleur de toi, tu donnes le meilleur de toi et après, tu n'auras pas de culpabilité à dire ah « bah tiens, j'ai pas tout donné ». Au moins, tu donnes le meilleur.
J'aime bien l'idée que les émotions sont des indicateurs en fait, à observer pour mieux se comprendre et mieux aller vers ce qu'on veut en fait, finalement. Deuxième question, rafale. Je sais que tu te nourris et que tu lis et que tu regardes des vidéos, enfin que en fait, ça te passionne comme moi. Aurais-tu trois ressources à partager, qui pour toi ont été vraiment des trucs qui t'ont apporté beaucoup en fait. Désolé pour le.
Ouais, pas de soucis.
T'as compris ma question.
J'ai compris. Premier, évidemment, libérer votre créativité de Julia Cameron.
Pourquoi évidemment ?
Une bombe. Une bombe dans la tête, une bombe. C'est un livre qui ne se lit pas comme un livre classique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des semaines où on suit pendant 12 semaines et en fait, l'évolution par rapport à sa vision qu'on a de la créativité, par rapport à sa vision qu'on a de soi, change véritablement en 12 semaines. On n'est plus le même à la fin de ces 12 semaines, de par le fait qu'on écrive 3 pages le matin, ou en tout cas on trouve un moment dans la journée pour écrire 3 pages sur un cahier, et qu'on aille au rendez-vous avec l'artiste, c'est expliqué, c'est-à-dire le rendez-vous avec l'artiste, c'est retrouver son âme d'enfant en allant seul dans des endroits qui nous font plaisir et qui nourrissent notre âme d'enfant. Et c'est gigantesque comme livre, c'est vraiment superbe.
Je confirme. Donc ça c'est le premier, est-ce que tu en aurais deux autres ?
Un autre livre qui s'appelle Inspiration, j'ai oublié l'auteur d'ailleurs, mais qui résume un peu comment on peut être de plus en plus en connexion avec le tout, et qui brasse un peu le fait que en fait l'inspiration elle n'est pas, si je peux schématiser, nous n'avons pas les idées. Les idées sont dans les airs. Nous ne sommes qu'un filtre qui peuvent retranscrire ces idées qui sont dans les airs. Et de par notre matière, de par notre cerveau, de par ce qu'on est, on retransmet ces informations dans la matière. Et ces informations, ces idées sont déjà en l'air.
J'adore, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, en mode je canalise des trucs qui sont dans l'air et je retranscris. Je crois qu'Elisabeth Gilbert en parle aussi très bien, une grande prêtresse entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de la créativité. Ok, un troisième ?
Le troisième, Matrix. Matrix, ah, quelle bombe ce film. Quand je l'avais pas compris la première fois que je l'ai vu, ouais, j'ai compris vite fait, ah oui, d'accord, c'est cool, il y a un monde derrière le monde. Et quand tu revois et que j'avais vécu cette époque un peu mystique à un moment, et que tu comprends ce monde derrière le monde, et que ce sont des paraboles en fait sur le l'envers du décor qu'on peut avoir face à la, entre guillemets, la matrice qu'on vit là aujourd'hui. J'ai trouvé ça d'une subtilité, j'ai trouvé ça d'une justesse, une science-fiction parfaite. Après, on aime, on n'aime pas les petits combats, mais bon, en tout cas, c'est pour moi une grande série de films.
Ouais, je te rejoins, un visionnaire ce film. Ok, et j'ai une dernière question pour toi, Damien. Je l'appelle la question un peu culottée. Justement, est-ce qu'il y a une question que tu rêverais que je te pose là maintenant, tout de suite? Si oui, laquelle? tu as le droit de prendre ton temps.
Quelle est la prochaine création que tu veux faire ?
Tu souhaites que je te la pose ? Alors, quelle est la prochaine création pour toi, Damien ?
Eh ben, c'est très marrant parce que c'est une création que j'aimerais faire avec toi, justement. j'aimerais écrire un livre avec toi qui parlerait de la dépression et du burn-out en entreprise. Comment on arrive à se mettre dans des états de dépression et de burn-out, et comment on revient vers l'optimisme et la joie après ça, après des moments aussi difficiles, parce que j'ai vécu aussi de la dépression après mon premier travail. Moi, j'étais vendeur de voitures avant, et j'ai très mal vécu le fait que tout un monde toutes mes croyances s'étaient écroulées. Parce que justement, j'avais compris que là où on m'emmenait, là où l'éducation m'emmenait, ça ne me mettait pas heureux. Et j'étais perdu. J'étais perdu face à ça. Et j'aimerais vraiment, maintenant avec du recul, faire en sorte que déjà les gens aient des alertes sur le burn-out et sur la dépression. Et quand bien même on n'écoute pas trop ces alertes, de trouver les moyens, une fois que le tsunami est passé, de remonter la pente pour pouvoir réussir à se dire ouais, en fait la vie est vraiment très très cool.
Ok, c'est une belle proposition, on en parle juste après. Merci Damien. Alors vous l'aurez compris, Damien est facteur et comédien, ce n'est pas banal, c'est très singulier. Il a créé Facteur Studio. Moi j'ai eu la chance de voir son premier seul en scène, comme on dit. Donc j'ai pleuré, j'ai ri, franchement j'ai adoré. C'est pas parce que j'interview Damien, enfin si, parce que je l'adore, mais je vous le dis, c'est vraiment génial. Alors je crois, Damien, tu auras d'autres dates, parce que la première c'était avant le confinement, tu auras potentiellement d'autres dates à l'automne peut-être.
Oui, voilà, donc je serai à Nantes pendant 3 dates entre septembre et octobre, et je jouerai 3 dates à Montpellier mi-janvier. En attendant, normalement il y en aura peut-être une sur Paris fin d'année là.
Ben, c'est génial. Pour te suivre, Damien, on fait quoi ?
On peut me retrouver sur Damien Jaouen Comédien sur Facebook, avant peut-être d'essayer d'être sur plusieurs autres réseaux sociaux, parce que je sais que c'est pas forcément seulement Facebook, mais on va faire ça gentiment, tranquillement.
En tout cas, tes dates y seront, quoi.
Oui.
Ok, super. Ben, c'était un plaisir, Damien, d'échanger avec toi pour cette première. Je pense qu'on peut dire qu'on est super contents.
Ouais, c'est cool.
Et le mot de la fin, ben, c'est clap de fin. Merci infiniment à Damien pour ce premier épisode de Créez-moi sur parole. J'ai pris un sacré plaisir à écouter son histoire. J'espère que vous aussi, et que ça vous aura surtout inspiré et donné envie de vous lancer. Sachez que vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode les quelques références de livres et films dont nous parle Damien. Et si le premier épisode de Créez-moi sur parole, vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à mettre les petites étoiles, 5 de préférence, sur vos plateformes d'écoute préférées. Osons aller à la rencontre de nous-mêmes, allons décrocher les étoiles, créons et prenons notre pied.